Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, vous écoutez Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de femmes contre le sexisme. Je suis Anaïs et je suis toujours avec ma terrifiante équipe. Salut Margaïde. Salut Elsa.
Hello.
On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette fois, on va parler de bouffe. Serveuse, patronne, chef, cuisinière, boulangère, viticultrice, elle se mange du sexisme à longueur de temps, mais elle se bastonne avec talent. Vous allez voir, nos Warriors sont déterminées et elles vont vous servir de l'inspiration à foison. Elles ont recalé le misogyne qui les sous-estime, elles ont décidé de mettre en avant les femmes dans leur métier, bref, elles brillent, font briller et brilleront. Cet épisode est à consommer sans aucune modération.
Miam, 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 yummy.
Et puis du coup, on va commencer par le commencement. Marga, c'est l'heure de l'apéro.
Bah oui, hein, qui dit bouffe dit apéro, forcément. Et on a reçu le témoignage de Chloé, qui a travaillé comme serveuse dans un bar. Et à ce moment-là, un couple, un homme, une femme, sont arrivés au comptoir pour lui commander 2 pintes de Monaco. Et elle vous raconte la suite.
Et donc, le Monaco, c'est bière, limonade, grenadine. Donc, il me regarde faire, donc c'était du service au comptoir en plus, donc il me voyait préparer les 2 pintes de Monaco. Il a attendu tranquillement que j'ai terminé. Et après, je leur sers leurs 2 pintes et il me regarde et il m'a dit super sèchement, il n'y a pas de limonade dans le Monaco. Il m'a parlé vraiment de manière hyper condescendante. Je crois qu'il avait envie de prouver qu'il connaissait mieux mon métier que moi parce que les hommes, ils aiment bien avoir l'ego et montrer qu'ils savent faire des cocktails. Et en plus, ça m'a saoulé qu'il ait attendu que j'ai tout fini pour se manifester. Bref, du coup, j'avais quand même envie de pas laisser passer ça, mais en même temps, je pouvais pas me permettre de m'énerver contre lui, puisque c'est des clients et que j'aurais pu avoir des problèmes avec mes patrons. Du coup, je lui ai sorti mon plus beau sourire forcé, et j'ai dit du ton le plus condescendant que j'étais capable de sortir, « Mais si, monsieur, il y a de la limonade dans le Monaco. Bière grenadine, c'est un tango. Mais je vous l'ai refait, si vous voulez. » Et là, je l'ai vu se décomposer et il est reparti avec ses 2 pintes de Monaco, sûrement trop blessé dans son ego pour accepter mon aimable proposition. Et j'étais plutôt fière de moi parce que ce qui était cool, c'est que j'ai réussi à le remettre en place et à le coller face à sa connerie sans pour autant avoir à me mettre en danger vis-à-vis de mes patrons parce que je le voyais mal aller les voir et admettre que en fait, ils connaissaient pas un des cocktails les plus basiques de l'histoire des cocktails.
Bravo. Oups. Bravo, bravo Chloé. Moi j'aurais trop aimé avoir ton aplomb quand j'ai bossé. Je faisais des jobs d'été dans des bars aussi, ouais. Et ça arrive tout le temps. Les mecs qui t'expliquent la vie et j'ai jamais réussi en fait à avoir l'assurance pour les recadrer. Donc franchement bravo. En tout cas, c'était un bel exemple de mansplaining, contraction de man pour homme et splaining pour expliquer. Donc l'homme qui t'explique ce que tu sais déjà parce qu'il est un homme. C'est très brillant.
On peut aussi l'appeler Captain Obvious, Voilà. Fait toujours des interventions très, tout à fait passionnantes. Voilà, bah dans le même genre, quand on remet en question les compétences d'une professionnelle, on met aussi, on peut aussi, un homme peut aussi remettre en question sa place dans la hiérarchie. Et donc, ça va être le cas de Madame Paupière, qui est patronne de bars et de restaurants à Marseille. Elle est donc associée à un homme, mais c'est la patronne. Et le fait que le patron soit une patronne, bah, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Elle nous raconte sa victoire face à deux commerciaux.
Donc, deux commerciaux débarquent au bar en début de soirée. Ils demandent à une de mes responsables qui était là ce jour-là, qui aussi pouvait voir le patron parce que soi-disant ils avaient rendez-vous. Elle leur a dit le patron n'est pas là, mais il y a la patronne. Ils sont donc venus me voir en me déposant des bières, en me demandant de les mettre au frais parce qu'il fallait qu'on les goûte un peu plus tard. Je leur ai dit que mon associé n'allait pas venir et qu'ils m'ont dit non, mais on préfère attendre le monsieur, le barbu. Bon, très bien, je mets les bières au frais, je les calcule pas, ils se prennent un petit cocktail. Mon associé arrive, donc il se présente et il leur dit, bah écoutez, il faut goûter des bières. Et mon associé leur répond, moi la bière, de toute façon, j'y connais rien, c'est à la fille qu'il faut demander. Et là, bah évidemment, quand ils sont revenus me revoir pour me faire sortir les bières du frigo, je leur ai rendu les bières. Ils m'avaient donné un petit seau qui allait avec pour pouvoir les mettre au frais. Le seau a fini dans les chiottes comme poubelle de chiottes et je ne les ai jamais revus. Voilà. Bisous.
bisous, Madame Paupière, j'adore.
Oh non, c'est génial.
J'aime trop. Je sais même pas comment en commenter parce que alors, c'est juste parfait. Ils se sont rendus compte que c'était elle qui s'y connaissait, c'est elle qui a l'expertise, c'est elle qu'il fallait s'adresser.
Ouais.
Ils ont perdu du temps en plus du coup à attendre le patron, le barbu.
Bien fait pour eux.
Voilà. Donc sa réaction est parfaite. J'ai rien de plus à dire. Elle a tout dit.
Bah ouais, hein, les poubelles de chiottes, c'est pas mal. Hein.
C'est
recycler
pas mal.
Les objets promotionnels comme ça, c'est génial.
Rien ne se perd. Mais du coup, voilà, si on arrive à être remise en question comme ça quand on est patronne, on y arrive aussi quand on est cliente. C'est ce dont tu vas nous parler, Elsa.
Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, la place de la femme en tant que cliente dans un restaurant, surtout quand elle est accompagnée d'un homme, c'est toute une histoire.
Ouais.
Je ne sais pas si vous connaissez les restaurants, on va dire, haut de gamme, qui ont des menus pour les hommes et des menus pour les femmes.
Oh, j'y dîne tous les soirs.
Ah bah oui, tout à fait. Et bon, c'est un peu à l'ancienne, mais il y a quelques restos qui le font encore aujourd'hui, sûrement.
Ah ouais,
pas mal même. Ouais.
Et donc, le menu, il y a les prix pour les hommes, pas pour les femmes.
Voilà, donc le menu pour les femmes, c'est que tu choisis un plat, mais t'as pas le prix qui va avec, parce que c'est forcément l'homme qui va payer.
Et puis les femmes n'ont pas d'argent, c'est bien connu.
Bah non.
Elles vendent leur compagnie. Et du coup, voilà, donc c'est quand même très très ancré, ce truc où c'est vraiment l'homme qui doit payer, etc. C'est vraiment un type de domination économique qui est assez intéressant parce que tu te dis, attends, on va juste manger en fait là, qu'est-ce qui se passe quoi? Genre,
ouais.
Pourquoi tout d'un coup c'est aussi genré en fait le rapport au service qui est fait. Anaïs, tu avais une petite histoire par rapport à ça qu'on lance le témoignage.
Moi, ça m'arrive régulièrement, mais je me rappelle de cette fois où je buvais un verre avec un de mes meilleurs potes et c'était ma tournée. Je payais un verre à mon pote. Mais quand le serveur vient nous encaisser, il me regarde avec un air complètement halluciné. Il regarde mon pote et il dit « C'est madame qui paye. »
Ouais.
Et il répète « C'est madame qui paye. » Genre « Mec, paye. » J'ai regardé, j'ai dit, ça va, tout va bien en fait. J'ai décidé de payer un verre à mon ami, j'ai les moyens de le payer, on se détend, on respire deux minutes. Et on a eu plusieurs épisodes comme ça dans la même soirée, ce qui fait que mon pote a fini par me dire, putain, ça fait une heure qu'on est ensemble, t'as eu deux, trois épisodes de sexisme, je commence à me rendre compte de ce que c'est en fait. Voilà, bienvenue dans la vie d'une femme.
Tout à fait. Et ça me rappelle aussi Chimamanda Adichie qui avait dit, pourquoi en fait ce serait pas à la personne qui gagne mieux sa vie entre les deux personnes qui payent, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a plein de cas aujourd'hui, je ne dis pas dans les années 50, mais quand même aujourd'hui, il y a énormément de cas où c'est la femme qui gagne plus.
Ouais.
Donc, voilà.
Oui, surtout la répartition du budget dans les couples, maintenant, on n'a plus rien à voir. Parce
Exactement.
Que chacun gagne éventuellement son salaire. Et du coup, chaque couple gère ses finances un peu comme on veut, indépendamment du genre des deux personnes.
Mais oui, et puis tu invites quand tu as envie de faire plaisir. Pour, en fait.
Voilà. Exactement. Et du coup, on va écouter le témoignage de Marcella. Donc, elle a 30 ans et il y a quelques temps, elle avait un amant qui avait une vision assez classique de la masculinité, donc comment un homme doit se comporter, donc un homme doit être fort, tout ça, les grands classiques. Et bien sûr, un homme doit payer l'addition au resto, ça n'est pas négociable. Elle n'était pas très très d'accord avec ça, et ils en ont parlé plusieurs fois. Mais il lui disait « Non, mais moi je suis trop vieux pour changer d'avis ». Bon, je précise qu'il avait moins de 40 ans, donc c'est un peu exagéré de dire qu'il est trop vieux quand même.
Oui, bonjour, je suis un vieux con, ouais, j'assume
voilà,
alors.
C'est trop bizarre comme argument, mais bon, voilà. Du coup, je vous laisse écouter le témoignage de Marcella.
Donc ça faisait plusieurs mois qu'on s'était pas vu, et puis j'accepte de le voir autour d'un bol de ramen. Et arrive le moment de l'addition. Et je savais très bien ce qu'il allait dire au serveur, qu'il allait lui dire qu'il prendrait tout, qu'il paierait par carte. Donc moi, c'est pas la première fois que je vis ce genre de situation, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vécu. J'anticipe la chose, même déjà avant de partir chez moi, j'avais anticipé la situation en me disant, voilà, j'ai préparé du cash que je vais mettre dans une poche de ma veste, comme ça je serai prête à dégainer au moment où il faudra payer. Arrive le moment de l'addition, le serveur arrive avec la machine pour payer par carte. Charles lui dit qu'il va tout prendre par carte, sauf que moi je l'interromps avec mon billet, mes deux billets que je dégaine, et je dis au serveur, écoutez, tenez, prenez ceci. Donc ça équivalait à peu près aux deux tiers de l'addition. Prenez ceci, et je me tourne vers Charles et je lui dis, et toi tu paieras le reste par carte. Et je pense que j'ai eu un air assez déterminé parce que le serveur était un petit peu, avait l'air un petit peu déboussolé, et il a dit à Charles la chose suivante, écoutez, je suis désolée monsieur, mais madame a beaucoup trop d'autorité pour que je puisse refuser. Donc moi, hyper satisfaite de mon coup, je me dis, yes, j'ai sauvé mon honneur. En face, Charles, avec un regard un peu de reproche, dépité, bon, bah, voilà, le serveur avait empoché les deux billets que je lui avais tendus, donc il n'avait pas d'autre choix que de payer le reste, quoi, le tiers qui manquait de l'addition. Donc voilà, pour moi, c'était une petite victoire sur ce sexisme un peu qui se veut bienveillant au fond, mais qui est très paternaliste, hein, et que je refuse tout simplement. Je ne me fais pas inviter comme ça. Je me fais inviter seulement par des gens que j'apprécie, et j'invite entièrement des gens que j'apprécie uniquement. Et c'est vrai que ben, c'était du coup une manière pour moi de dire à Charles que tu comptes plus tant que ça dans ma vie.
Tu comptes plus tant que ça. Bye bye, au revoir.
Vous êtes renvoyé, monsieur.
Trop bien.
Ouais. Eh ben, bravo Marcella, parce qu'effectivement, elle devait être tellement déterminée, parce que pour que le serveur dise elle a trop d'autorité, c'est quoi. Ouais.
Mais n'empêche, la charge mentale de je vais payer l'addition, quoi. Enfin,
oui, c'est clair, elle avait préparé à l'avance et tout. C'est,
Ah oui, oui, elle allait retirer et tout. Ouais.
Il y en a plein des histoires comme ça, et même je sais qu'avec les serveurs, serveuses, souvent, quand selon la commande que tu fais, si vous prenez un verre de vin blanc, un verre de rouge, spontanément, on va amener le rouge à monsieur, alors que potentiellement c'est toi qui le bois.
L'entrecôte ou le tartare à monsieur. Ou,
voilà, exactement, même une pinte contre un verre. Enfin, on a des vieux réflexes comme ça.
Ou des choses comme ça qui sont associées beaucoup plus aux hommes.
Non, ce n'est pas parce que je suis une femme que je mange des salades en buvant de l'eau pétillante.
Ouais. Ah bon ?
Je ne bois pas que du kir, même si j'aime bien ça de temps en temps.
On va passer, ouais, de l'autre côté du passe-plat pour aller voir ce qui se passe en cuisine. Et bon, je ne vous apprendrai rien en disant que dans les restaurants étoilés, il y a de plus en plus de témoignages qui sortent de femmes qui travaillent avec des situations vraiment sexistes, mais vraiment dégueulasses. Des comportements, des agressions sexistes. Et récemment, c'est la chef Alexia Duchesne, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une ancienne candidate de Top Chef.
Ouais, j'ai vu qui passer l'info.
Ouais, ouais. Elle a mis le sujet sur la table dans une interview. Elle a parlé de son expérience, hein, tout simplement, où elle raconte les mains aux fesses, les textos à connotation sexuelle du type « Rejoins-moi ce soir ». Alors qu'elle avait 15 ans quand elle a débuté, donc c'est quand même un truc de fou, quoi. On parle, on parle d'une adolescente. Je vous invite aussi à aller voir le compte Instagram Je dis non chef, qui recueille les témoignages de femmes qui travaillent en cuisine. C'est affligeant, tellement dégueulasse que j'ai même pas envie de vous faire un florilège, hein, vous verrez, hein. J'ai pas envie de casser l'ambiance. Et donc sur ce thème-là, on a reçu le témoignage de Clara, qui confirme tout à fait cette ambiance. Elle nous dit, quand on est jeune, qu'on a peu d'expérience professionnelle et qu'on débarque dans un milieu aussi difficile, on se sent rapidement comme une proie. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait l'expérience. Et après avoir eu une très mauvaise expérience dans un restaurant étoilé en Suisse, elle a travaillé dans un autre restaurant où là, ça se passait un peu mieux, mais où quand même le sexisme bienveillant, le sexisme ordinaire était très présent, et notamment avec un de ses chefs.
C'était le genre de personnage assez jovial. Et il aimait bien m'appeler princesse. Donc une fois, deux fois, salut princesse, alors princesse, nanana. Bon, voilà, hein. Moi, je trouvais très sympathique, mais ça m'énervait, ça m'agaçait, en fait, d'être appelée princesse, parce que je me considère pas du tout comme une princesse. Je m'habille pas comme une princesse, je me coiffe pas comme une princesse, je parle pas comme une princesse, donc j'avais aucune raison d'être appelée princesse. Donc au bout d'un moment, je dis au chef, mais arrêtez de m'appeler princesse, je suis pas une princesse, je suis une femme d'action. Puis il m'avait regardé, il fait « Ah, d'accord, une femme d'action, ok. » Et le lendemain, au lieu de son salut princesse, il était arrivé en chantant le générique des Super Nanas. Alors là, j'avais tellement, mais j'en ris encore, je trouvais tellement drôle, et il m'a plus jamais appelé princesse.
Comment il connaît ça?
Comment il connaît ça? Je sais pas. Super Nana.
C'est génial.
Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un dessin animé en série qui met en scène trois petites filles qui sont frangines et qui sont des super héroïnes qui sauvent la planète, qui sauvent le monde. Super badass.
Génial. Ah, c'est vraiment drôle.
Bon retournement de situation.
Ouais. Non, mais moi j'adore cette réplique. Hein. Enfin,
je suis pas une princesse, je suis une femme d'action.
Je suis une femme d'action, je pense que je vais la garder pour la réutiliser dans tout plein de situations professionnelles. Parce
très
que
belle
c'est
punchline.
Donc après ça, Clara a quitté le milieu de la gastronomie, hein, au bout d'un moment, fatigue, hein, c'est juste insupportable. Mais elle a souhaité quand même faire de son expérience une force, elle en a même fait une revanche, parce qu'elle a écrit une série de livres, des romans qui racontent les aventures professionnelles et sentimentales d'une jeune chef. Donc elle s'inspire largement de ce qu'elle a vécu et de son expérience. Et ça s'appelle Cooking Drama, c'est aux éditions La Belle Badass, et ça va ressortir au printemps prochain chez Nisha etc. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir son point de vue sur le monde de la restauration, mais de façon légère et romancée, n'hésitez pas.
Attends, mais il y a une maison d'édition qui s'appelle La Belle Badass et on m'a pas prévenu.
Et on n'est pas au courant. Ça va pas du tout là.
C'est un scandale.
Mais cette place des femmes dans les brigades étoilées, c'est quand même, enfin c'est un gros sujet et qui continue parce que. On se dit normalement, avec tout ce qui s'est passé, tous les témoignages qui sont sortis, bon, peut-être que les mecs se remettent un peu en question.
Non, mais faut pas rêver non plus.
Scoop, pas du tout. Très récemment, je sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique du chef Yannick Aleno, triplement étoilé, voilà, très médiatique, il passe dans plein d'émissions, machin, tout ça. Et il participait en septembre à un événement au Quai Branly, Gastronomie sans frontières, où il s'est...
Déjà.
Voilà.
Une âme charitable.
Et il a dit, hein, devant une salle comble, où il y avait notamment un des femmes chefs qui était là, hein, « Beaucoup de femmes nous demandent à travailler le midi, car le soir, elles doivent s'occuper des enfants. Nous, les hommes, on a de la chance. L'ADN des femmes, c'est d'enfanter. »
Mais what?
Déjà, va reprendre tes cours de bio, vite.
Déjà, pour commencer. Donc, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il s'est fait huer directement par la salle et il s'est fait clasher sur Twitter et Instagram directement, notamment par Katia et Tatiana Leva, qui sont toutes les deux à la tête de restaurants, ces deux frangines. Et elles ont posté une photo sur Insta où on voit toute l'équipe du resto avec les enfants, hommes et femmes. Parce que, scoop, on peut avoir des enfants, être une femme et travailler, et aussi avoir des enfants, être un homme et avoir envie de les voir. Donc, ce qu'elles expliquent aussi, c'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est organiser le temps pour que tout le monde puisse voir ses enfants grandir, en fait. Ça paraît tellement logique.
Des millénaires pour comprendre ça.
Voilà, et si on n'a pas envie de voir voilà, et tout le monde, hein, même, on peut aussi avoir du temps libre, pas forcément pour voir sa famille, hein, si on veut juste glander, aller dans un resto, aller au ciné, faire du sport ou sortir pécho, c'est possible aussi. Hein, donc voilà. Vive le temps libre.
Bien. Marga, tu gardes le mic.
Ah ouais, je ne m'arrête plus là.
Non, t'es lancée, t'es très bien lancée, donc continue.
Allez, je vous pose une petite colle. Combien de femmes travaillent dans le secteur de la restauration en pourcentage, un pourcentage homme-femme, à votre avis?
Bah du coup, je sais pas, 20%, je dirais.
Moi, je dirais 30, mais je sais pas.
Ah là là, mais tout faux, vous seriez naze à la question pour un champion.
Ça, je savais déjà, par contre.
En fait, non, c'est 52% d'hommes et 48% de femmes, selon l'INSEE. En fait, les femmes sont surreprésentées dans les métiers précaires, c'est-à-dire les métiers de la restauration rapide, fast-food, tout ça.
Ah, ok, moi je pensais genre en cuisine. Parce non, que c'est non, clair non. que pour le service, il y a plein de femmes. Ouais.
Restauration, donc c'est un secteur qui en fait est finalement très paritaire. Ouais. Et pourtant, médiatiquement, en fait, c'est que les hommes que l'on voit. Ouais, ouais. Et
c'est comme le stylisme, tant que c'est de la couture, c'est pour les femmes. Et dès que ça devient un truc stylé, bah, c'est pour les hommes.
Voilà, ouais. Exactement. Donc on le voit médiatiquement dans les émissions, par exemple, comme Top Chef. Hein, ça fait deux fois que je les cite.
Depuis... Elle adore cette émission.
C'est vrai, je regarde. Seulement deux femmes depuis le début pour être jurées, Hélène Darroze et Guylaine Arabian. Et alors qu'il y a eu six hommes jurés. Donc on est quand même très très loin de la parité. Et puis à ce moment-là, c'est aussi le cercle vicieux, c'est-à-dire moins on voit de femmes dans ces cercles fermés de la gastronomie, et ben moins il y a de représentation, moins on en voit.
Moi, il y a de femmes qui se lancent dans ces domaines-là.
Qui se sentent légitimes à le faire, etc.
Donc voilà, cette question de la représentation est très importante. Et c'est justement le combat de notre prochaine warrior, qui s'appelle Estherelle. Elle est critique culinaire pour Télérama et aussi à France Inter dans l'émission On va déguster, qui parle de gastronomie le dimanche matin. Et voilà, c'est un combat... qu'elle mène tous les jours en exerçant son métier, et elle le constate, en fait, comme je disais, les femmes sont bien là, elles sont en cuisine, elles sont à la tête de restaurants, dans des restaurants de quartier, dans des brasseries, dans ce qu'on appelle la cuisine du monde, mais elles n'ont pas accès à ce petit cercle médiatique. Et donc, ce qu'elle essaye de faire, c'est déjà de les représenter dans les articles qu'elle écrit, en ouvrant un petit peu, en s'ouvrant à d'autres cercles, la haute gastronomie, et ça lui vaut des remarques de ses collègues masculins, genre « Oh là là, mais comment tu l'as trouvée, cette femme chef qu'elle est géniale ?» Ben, en faisant mon métier de journaliste, peut-être, qui est de chercher les informations. Et surtout, avec une autre documentariste journaliste, elles ont sorti un guide qui recense 500 chefs, avec deux F, chefs, en France, et elles nous racontent comment elles en ont eu l'idée.
Il y a 2 ans, il y a eu une remise des étoiles Michelin à la Seine, à Boulogne-Billancourt. Et il s'est passé une scène extraordinaire donc, pour les nouveaux étoilés. Quand ils sont montés sur scène, il y avait des couples. Ils ont bien été cités, un homme, une femme, qui partagent un restaurant qu'ils ont en copropriété et où ils cuisinent tous les deux. Et puis quand j'ai regardé le communiqué de presse, il n'y avait que l'homme qui était cité. Et moi, je me suis retrouvée à me dire « Mais ça ne correspond pas à ce que j'ai vu sur scène ». Où sont donc passées les femmes ? Et ça a été un sentiment d'une violence inouïe, de se dire elles étaient bien là, mais elles n'existent pas pour la postérité. Et avec Vérane, partant de ce constat, on a dit, mais les filles, il faut qu'on nous voit, et puisque même quand vous êtes là, on ne vous voit pas, ben on va faire un boulot qui a l'air très simple et très bête. On va se mettre à compiler, à essayer de recenser le plus grand nombre possible de femmes qui font ce métier. On ne s'attendait pas à ce qu'on allait déclencher, ni à ce qu'on allait trouver. On a été contacté par plein de femmes chefs via les réseaux sociaux. Et puis on a pris évidemment les guides. Parfois, c'est là aussi qu'on a bien retrouvé dans les guides le fait que souvent, quand c'était une femme en cuisine, elle n'était nommée que de son prénom. On a tout compilé, on y a passé des nuits blanches, on s'est relayé. Et puis pour une femme chef contactée, elle nous en donnait 2 autres qu'on ne trouvait nulle part. Et on a vu aussi arriver des femmes de toutes les nationalités. C'était aussi quelque chose qui était très touchant de voir... que ces cuisinières, en les recensant, elles voyaient leur métier être anobli. C'est quelque chose que j'avais pas en tête. L'importance de laisser une trace, de montrer qui on est. Le guide servait juste à ça. Juste dire, on est là, on existe, arrêtez de faire comme si on n'est pas là. Quand le livre est sorti en février 2019, on a organisé une petite soirée chez Alessandra Montagne, une chef formidable. Énormément de femmes chefs sont venues pour nous faire signer leur livre. Et elles étaient surtout extrêmement heureuses de se rencontrer les unes et les autres. On s'est rendu compte qu'occupées toute la journée à tenir à bout de bras leur petite entreprise, elles n'ont pas de temps pour réseauter. On n'a pas le temps d'appeler ou quelqu'un. Déjà, si on ne se sent pas soi-même légitime, vous vous rendez compte, aller dire qu'on a un problème, aller demander de l'aide, on n'a pas le temps, les journées n'ont que 24 heures. Moi, ce que j'ai vu, c'est des femmes de toutes les couleurs, de tous les horizons sociaux, qui faisaient toutes le même métier et qui ne se reconnaissaient absolument pas dans cet imaginaire du chef traditionnel à toque blanche.
Waouh!
Ouais.
Bravo, j'adore!
Bravo, c'est génial!
Putain, c'est vraiment la sororité en action, quoi.
Bah, c'est j'adore. Exactement ça, en fait. C'est, elle profite, en fait, de sa position de journaliste culinaire, de critique, pardon, est-ce qu'elle tient aussi à ce terme de critique, critique culinaire, dans un média dominant, on va dire, enfin, dans un média qui fait référence pour justement faire monter les autres femmes qui travaillent au quotidien dans leur cuisine et qui galèrent. Donc, je vais quand même citer leur nom de famille aux deux autrices, donc le guide Chef 500 femmes qui font la différence dans les cuisines de France, ça c'est le titre, est écrit donc par Estherelle Payani et Véran Frediani et c'est disponible aux éditions Nourriture Fus au prix de 20 € et c'est préfacé par la chef Anne-Sophie Pic.
Grande classe.
Encore un nom d'édition pas mal, quoi.
Ouais, Nourriture Fus.
J'adore.
Je suis encore en train de me dire que tout ce qu'on pourrait faire avec ce genre d'idées, c'est génial de se faire monter vers le haut chacune les unes les autres. Enfin bref, trop bien.
des rêves de sororité. Comme
ouais,
ça
donne plein d'idées. C'est génial. Donc voilà, cette fois, on va donner la parole à Khadija. Elle est serveuse. Elle était serveuse, en tout cas, au moment des faits, puisqu'elle avait 17 ans lors de cette histoire. En gros, elle travaillait dans un resto. Elle devait faire la mise en place du restaurant avec le chef cuisinier à l'heure du déjeuner. Et ce chef, il a déjà très mauvaise réputation. Visiblement, il se prenait la tête avec absolument tout le monde, quel que soit le métier que tu as dans la boîte. Et ce jour-là, la fermeture de la veille avait été mal faite, donc ils ont perdu un peu de temps. Et du coup, il s'en est pris à elle et elle nous raconte sa réaction.
C'était assez violent. Il a commencé par m'insulter. Je pense qu'il a fait son répertoire d'insultes féminines. Et puis, il a continué en m'expliquant qu'il voyait très bien dans mon jeu et qu'il me voyait me dandiner devant les clients, les aguicher, que de toute façon j'étais une allumeuse et que j'aimais ça, qu'il ne pouvait pas nous voir, les bimbos matérialistes et superficiels comme moi. Donc voilà, un pamphlet assez violent qui m'a d'abord laissé bouche bée, parce qu'on parle quand même de mon supérieur hiérarchique à ce moment-là, on est dans le temps de travail. On est seul. Mais finalement, je lui ai dit d'aller se faire voir et je suis partie. Donc, j'ai passé la matinée à me balader dans le centre commercial où était situé le restaurant. Et puis, à l'approche de midi, donc au moment de reprendre mon service, je suis revenue, plus détendue, comme si de rien n'était, en prenant soin tout de même de signifier mon hostilité à ce chef cuisinier. Et puis, j'ai continué de travailler. À partir de là, le chef cuisinier a changé son comportement avec moi. Il est devenu beaucoup plus sympathique, plus attentionné, on va dire, plus attentif à ce qu'il pouvait me mettre à l'aise ou pas. Et il est même, quelques semaines plus tard, venu s'excuser de cette fameuse, on appellera ça dispute, en m'expliquant justement qu'il pouvait avoir des propos déplacés, qu'il ne se rendait pas forcément compte toujours de ce qu'il disait ou de l'impact de ce qu'il disait. Et que voilà, si ça avait pu me blesser, il en était désolé. Cerise sur le gâteau, mon directeur n'a jamais été mis au courant de cette histoire, ce qui m'a permis de gagner une matinée de travail.
Bah, bravo.
Ouais, c'est courageux de se barrer comme ça.
Ouais. Et en plus, il y a tellement... moi, j'ai été serveuse aussi pendant un long moment... Il y a vraiment une soumission-domination entre boss et l'équipe de service qui est assez incroyable. Moi, j'ai été harcelée moralement par une patronne, pour le coup. Hein, et j'ai fini par partir en pétant un câble, parce qu'en plus, j'étais payé 30 balles par service, sachant que le service pouvait durer 6-7 heures facilement. Donc, c'est courageux d'arriver à envoyer chier le boss, quoi, le chef. Et je voudrais juste faire un point sur la façon qu'on peut avoir de s'excuser, en fait. Je suis toujours... ça fait peu de temps que j'ai identifié ça, mais maintenant, ça me choque quand quelqu'un s'excuse s'il a pu blesser.
Oui.
En fait, ça veut dire que tu pars du postulat que ça peut ne pas blesser, alors que tu sais très bien que tu as blessé. Donc, un conseil, si vous voulez sincèrement vous excuser, vous ne mettez pas la blessure au conditionnel, en fait.
Oui.
Vous savez que si vous vous excusez, c'est que vous savez que vous avez déconné à un endroit. Donc, c'est « je t'ai blessé, j'en suis désolé ». C'est pas « je suis désolé si je t'ai blessé ». Puisque tu le sais très bien.
Je suis désolée de t'avoir blessé.
Ouais.
Parce qu'en plus, même si pour toi, c'est pas blessant, la personne, elle est blessée. Donc, tu peux pas nier ce qu'elle ressent dans tous les cas.
C'est ça. Donc bon, c'est toujours, c'est après c'est difficile à déconstruire. Hein. Je sais que moi-même ça peut m'arriver de m'excuser comme ça, mais en tout cas si on commence à y réfléchir, ouais, au moins ouais. on peut faire des excuses un petit peu plus sincères et ça peut être intéressant.
Mais ça met le doigt aussi sur un mode de fonctionnement qui est toxique aussi dans les métiers de la restauration où tu parlais de ce rapport de domination, mais ce rapport aussi limite des insultes en fait qui sont limite c'est normal d'insulter les gens parce que le travail y est mal fait, mais non, il y a aucun métier où c'est acceptable en fait de se faire insulter quoi.
En plus dans son histoire, elle n'était pas là à la fermeture de la veille, donc elle est absolument pour rien dans le bug qu'il y a à l'ouverture et lors de la préparation, donc elle se mange vraiment tout ça déjà complètement gratuitement. Et puis le coup de l'hypersexualiser, de lui imaginer lui attribuer des intentions qui sont pas les siennes, bon ça c'est un grand classique, on en a parlé dans l'espace public, on en a parlé au travail, on en a parlé dans le sport, c'est invariable,
c'est partout.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'en tant que serveuse on est souvent hypersexualisée, enfin, moi je l'ai vécu et je vois tout le temps, enfin il y a quand même beaucoup de restos où t'arrives et tu vois les serveuses et tu dis vous les avez recrutées sur quels critères, en fait? C'est genre, ça se voit tout de suite que...
Et puis les tenues obligatoires,
c'est ça,
elles sont toujours, quand t'es une nana, bon, c'est jupe courte, machin, c'est ajusté. Ouais. Et puis, il y a l'hypersexualisation facile. Moi, je me rappelle combien de fois, qu'est-ce que je vous sers? Des réflexions dégueulasses comme ça, de clients. Enfin bon, c'est un domaine où tu t'en manges plein la gueule à longueur de temps. Donc, je félicite avec d'autant plus de motivation toutes les femmes qui bossent là-dedans et qui arrivent peut-être qu'une fois de temps en temps, mais c'est déjà énorme
à les remettre à leur place. Carrément.
Bon, alors on a fait l'apéro, on a fait le plat.
Il faut arroser tout ça de quelque chose quand même.
Qu'est-ce qu'on boit? L'apéro, il est fini.
Qu'est-ce qu'on boit, Elsa?
Alors maintenant, on va parler du monde du vin, de l'œnologie, qui est quand même en France un secteur très très important, à la fois symboliquement et financièrement. Et en fait, on va écouter le témoignage de Sandrine, qui est caviste. Et donc déjà, on n'a pas l'habitude de voir une femme qui s'y connaît en vin. C'est quand même très très. Enfin, c'est pas du tout. Ça fait pas du tout partie de l'imaginaire qui est associé au vin. Et elle a trouvé une bonne idée justement pour faire comprendre aux hommes qu'il n'y avait pas de vin féminin.
Je m'appelle Sandrine Goyvaerts. Je suis caviste en Belgique. Un métier que j'exerce depuis maintenant une dizaine d'années et au cours de toutes ces années, c'est vrai que je suis souvent tombée sur des messieurs qui étaient un petit peu décontenancés par le fait de trouver une femme qui vend du vin, qui en parle, qu'il connaît bien. Alors, on les comprend, ces pauvres chéris. C'est vrai que le monde du vin est traditionnellement vu comme un métier d'homme, dominé par les hommes, fait par et pour les hommes. Ils sont complètement perdus. Ils cherchent le professionnel du vin derrière mon épaule. Et c'est vrai qu'il y a une sensation parfois de panique quand ils voient que personne ne viendra les sauver et qu'ils sont face à moi. Les réflexions typiques qu'on entend, c'est au-delà du fait de trouver une femme qui va leur conseiller du vin et d'en être un peu surpris, c'est aussi la façon qu'ils ont de percevoir la consommation des vins au féminin. Souvent, j'entends des phrases du type « Oh là là, attention, le vin que vous allez me conseiller, il faut que les femmes l'aiment. Donc, il faudra un truc un peu léger, un peu facile, vous savez. Ou alors un peu sucré, parce que les femmes, ça aime les vins sucrés. » C'est vraiment typiquement le genre de clichés qu'on entend, qui reviennent très très souvent. Les femmes ne boiraient pas du vin comme les autres. Alors, moi, j'utilise l'humour comme levier pour faire un petit peu tomber tous ces clichés. Alors, quand on me dit que c'est un vin, attention, il y aura des femmes dans l'assemblée, donc il faut un vin un peu léger, un vin féminin, je sors la carte macération d'ovaires. Et donc, j'explique que tant qu'on ne fait pas macérer des ovaires dans les bouteilles de vin, il n'y a pas de vin féminin, ça n'existe pas. Qu'il n'y a pas non plus de vin qui fait tomber les pénis ou qui les fait pousser. Alors, bon, certains le regrette sans doute, mais ça n'existe pas plus. Je crois que quand on prend les choses avec un petit peu d'humour et de subtilité, quand on pousse l'absurde vraiment à fond, on peut faire comprendre que le monde du vin est un monde qui n'est pas un monde d'hommes, qui est un monde aussi complexe, mêlé, avec tous les genres représentés et avec plein de goûts différents surtout.
J'adore.
Elle m'a fait rire.
Ça me rappelle le coup du tournevis cruciforme.
Ah oui, c'est vrai.
De la bite cruciforme de Madame Simone sur le bricolage.
Ouais, exactement.
C'est très très bon.
Oh là là. Vous pouvez écouter sur nos petits épisodes d'été, Madame Simone. Ouais, ben bah, non, mais l'histoire du vin qui fait pousser les pénis, mais.
Ouais, j'aime beaucoup.
Ouais, pas mal.
C'est vrai que certains doivent regretter que ce ne soit pas le cas. Et du coup, Sandrine, en fait, elle en est pas à son coup d'essai, elle travaille pas mal sur ces sujets-là.
Ouais,
en fait.
Voilà, ça, bah, forcément, hein, de tout ce qu'elle a vécu et de tout ce qu'elle voit, et puis du fait d'avoir dû s'imposer en tant que femme caviste, elle fait partie d'une association qui s'appelle Women Do Wine, qui rassemble, en fait, à travers le monde entier, des vigneronnes, des œnologues, des journalistes, des cavistes qui parlent du vin, voilà, pour faire la promotion de l'idée, comme quoi oui, les femmes peuvent aussi travailler dans le domaine du vin. Et elle a aussi également publié un livre, toujours aux éditions Nourri Turfu, sur les vigneronnes, qui s'appelle, que vous pouvez acheter aussi, pourquoi pas, si vous avez offrir aux hommes qui pensent qu'il y a des vins féminins.
C'est clair.
On les adore. Bon, c'est le moment, après avoir fait manger autant, etc., c'est le moment du dessert. Mm-hmm. C'est le moment du self-care.
Oh, cette musique sucrée, féminine.
Et légère.
Alors justement, moi je suis le cliché de la meuf qui fait rien comme il faut. Moi, on a un peu galéré à trouver un conseil de self-care. Du coup, c'est moi qui témoigne de mon expérience récente.
Vas-y, lance-toi, Anaïs.
Oh yeah.
Ça m'arrive en ce moment même, donc je ne l'ai pas encore vraiment bien pensé. Ça va sortir un petit peu dans le désordre. Moi, j'ai 34 ans et j'ai passé absolument toute ma vie à me persuader que j'étais une sombre brêle en cuisine. C'est-à-dire que j'ai jamais appris, on m'a jamais appris, on m'a jamais donné envie, et du coup j'ai pas tenté le coup parce que j'ai une sainte horreur de me sentir nulle. Donc de peur de me louper, je ne cuisine pas. Et puis cet été, je m'y suis mise tranquillement, et grande découverte, je suis pas nulle.
Yeah, ouais,
je suis pas nulle du tout. Ce que je fais, ça se mange. Je dis pas que c'est excellent, mais ça se mange.
C'est déjà ça. Hein.
Et du coup, voilà, donc c'est pas vraiment un conseil, mais on est dans le registre du « il y a des trucs qu'on croit qu'on peut pas faire, alors qu'en fait, on peut les faire ». Je mange super mal depuis toujours, du fait que je cuisine pas, et là, du coup, soudainement, je mange mieux. Je cuisine aussi parfois à deux avec mon copain, et c'est toujours un super moment, ça aide à se motiver, ça aide à s'y mettre.
Ton copain ?
Oui.
Oh là là, annonce.
Moment révélation.
N'en parlons plus. Déjà, je l'ai cité, c'est énorme. Et donc, je tente des trucs que j'ai jamais essayé. Et en plus, ça m'apporte une vraie satisfaction personnelle parce que de faire des choses de ses 10 doigts et des choses mangeables, c'est cool. Et en plus, j'apprends sur le tard que même cuisiner, je peux y prendre du plaisir, que ça fait du bien, que ça améliore mon quotidien. Bref, voilà. Si jamais t'es comme moi, si jamais tu n'oses pas cuisiner, j'ai un conseil. Tu commences par la purée. C'est super facile et c'est super bon.
Les patates, franchement, il y a tellement de façons de les cuisiner.
Oui, c'est
et
excellent.
C'est rarement raté. Ouais.
Patates au four, patates en purée, tout.
très bon. Purée, moi, en Angleterre, cet été, j'ai découvert les mushy peas. Les mushy peas, la purée de petits pois.
Pourquoi tu le dis avec un air, les mushy peas?
Je sais pas. Et du coup, c'est trop bon, et c'est vrai que ça, c'est sûrement très facile à faire.
Ben voilà,
je plussois et je.
Si j'arrive à motiver deux ou trois personnes qui pensent qu'elles sont pas douées comme moi, ben voilà, ce serait cool.
Allez, un club de cuisine des nuls.
Yeah.
Qui ne sont pas nuls.
Qui ne sont pas vraiment nuls. Bon, ben voilà, on passe à notre rubrique Gang de Warriors, et cette fois, Marga, on va complètement changer de sujet finalement.
Eh oui!
Mais
parce que là on a bien mangé, on a vraiment la ceinture qui pète là, donc
c'est le digestif.
Il faut faire du sport maintenant.
Faut faire du sport, voilà. Donc c'est un gigantesque gang de warriors que je vais vous présenter maintenant parce qu'elles sont 86.
Waouh.
Et elles ont entre 5 et 45 ans.
Génial.
On arrive en ville.
Vous visualisez un peu. Donc elles jouent au foot dans le Tarn. Enfin, plus précisément, elles essayent de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. Parce que même si le foot pratiqué par des femmes est de plus en plus médiatisé, on l'a vu avec la Coupe du monde de foot cet été. Et ben dans les clubs, au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Et dans le club de Saint-Sulpice, donc dans le Tarn, les joueuses, clairement, elles n'étaient pas traitées comme les égales des mâles. Alors, Julie Druard, qui est une des licenciées de ce club, elle l'explique. Elles n'ont pas le droit de jouer sur le terrain d'honneur, par exemple. Le minibus pour les déplacements, c'est toujours pour les mecs, mais jamais pour les femmes. Elles n'ont reçu leur équipement, donc leur survêtement, tout ça, qu'au mois de mai, alors que la saison, généralement, commence fin septembre, début octobre.
Génial.
Ah ouais, d'accord.
pendant l'hiver, quand c'est un peu boueux, tout ça, quand elles arrivaient, les vestiaires étaient systématiquement sales parce que les mecs le laissaient dans des, voilà, plein de terre partout, crados, de l'herbe, machin. Elles devaient systématiquement passer la serpillière dans le vestiaire, etc., etc., etc. Bref, merci la reconnaissance, alors que les équipes avaient des résultats tout à fait honorables. Hein. Alors, pour protester, elles ont tout simplement choisi de partir, de changer de club à l'intersaison. Donc en tout, ce sont 86 joueuses qui sont parties pour jouer, alors ça, soit, j'adore ce nom, hein, au FC Vignoble 81.
Donc on est encore dans le thème.
On est encore dans le thème.
Finalement.
Ou ouais. Certaines, enfin les meilleures joueuses sont parties jouer à Toulouse. Donc ce qui fait quand même, je fais le compte, 86 licences et donc 86 cotisations en moins pour voilà, de perdu pour le club sexiste, qui évidemment ne se remet pas du tout en question, hein. Les dirigeants disent que non, on n'a pas du tout été discriminant, il n'y a pas de problème, ne changez 86, rien surtout
86 voilà. Femmes hystériques et,
voilà c'est ça, sûrement de 5 à 45 ans, donc
non mais l'assurance, t'as 86 personnes qui te plantent et tu continues de te persuader que t'as tout bien fait,
ouais. Sans compter c'est que même... parmi ces jeunes filles, jeunes femmes, il y a sûrement le soutien des parents également, hein, donc ça fait quand même beaucoup de monde qui quand même s'accorde pour dire qu'il y a un problème. Mais bon, ne changez rien, surtout restez avec votre bandeau sur les yeux.
Dans donc, votre grotte. Ouais.
En tout cas, on voulait dire bravo à toutes ces sportives parce que c'est beau cette sororité finalement quand on s'unit toutes, c'est courageux, yes. Et ça donne du poids. Il y a eu des articles de presse qui sont sortis sur le sujet. Ça permet de visibiliser le problème. Il y a peut-être un espoir quand même que ça fasse réfléchir les dirigeants de club pour que les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui jouent au foot ou à tous les sports soient traitées également, comme les garçons en tout cas, ou encore mieux peut-être favoriser l'émergence de femmes à la tête des associations sportives. On peut rêver, hein?
Mais en plus, après la Coupe du Monde, j'imagine qu'il y a dû avoir une augmentation des inscriptions de femmes et de filles dans les clubs de foot. Donc, il est temps de se pencher sur la question, quoi.
Et de les accueillir dignement. Mmh. C'est une chose de les accueillir, de dire oui, on a ouvert une section féminine. Mais c'est bien aussi de les accueillir comme il se doit.
Total. Merci, Marga, pour cette présentation. Et bravo à nos 86 Warriors du Tarn.
On espère que vous allez pouvoir vous épanouir.
Oui. Voilà, c'est la fin de cet épisode super gourmand et vive le FC Vignoble 81. On remercie nos Warriors pour leur témoignage. Donc, merci à Madame Paupière, Chloé, Marcella, Sandrine, Estherelle, Clara, Khadija. Bravo à vous et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. Merci pour votre formidable solidarité aussi. Et on n'a plus qu'à faire pareil, mettre de la lumière sur les femmes talentueuses dans chacun de nos milieux.
Allez, c'est parti, ça commence maintenant.
Le prochain épisode parlera de sexisme, mais surtout de Warriors dans le milieu de la musique. Et pour l'occasion, on va enregistrer depuis le festival La Fiesta des Suds à Marseille, le samedi 12 octobre.
Eh ouais!
Ça va être chambé.
Trop bien.
Et à cette occasion, donc, on aura un petit public. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des invitations pour vous.
Wouhou. On est trop sympa comme meuf, t'as vu?
Donc on fait gagner 5 fois 2 places parce que c'est quand même plus cool de venir à 2. Donc pour en obtenir, il va vous suffire de nous écrire avant le vendredi 4 octobre à l'adresse spécialement créée pour l'occasion, fiesta@yespodcast.fr. Yes avec toujours 3 S. Et donc on tirera au sort les gagnantes.
Et oui.
Et je le mets au féminin, je m'en fous, les gagnantes.
Ouais.
Du coup, pour cet épisode musical, on est déjà au complet, mais je lance l'appel à témoignage du suivant. Donc, on parlera des Warriors LGBTQI+. Donc, si tu as réussi à retourner le cerveau de l'homophobe de base, si tu as recadré les fantasmes des gens sur ta bisexualité, si tu as fait un coming out flamboyant, ou encore si ta compagne et toi avaient eu recours à la PMA malgré le retard de la France à ce sujet, raconte-nous tout, on veut tout savoir, et tu peux d'ores et déjà nous écrire à l'adresse habituelle, c'est-à-dire warriors@yespodcast.fr.
Avec 3 S.
On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous accueille à nouveau et définitivement en fait. On a pris nos quartiers.
On reste ici,
c'est chez nous. Du coup, tu peux nous écouter, tu le sais, sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict, etc., etc. Tu peux nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, t'es la meilleure, tout simplement. T'es solidaire et ça c'est beau, t'as du talent et ça c'est classe. On croit grave en toi, tu nous inspires, tu nous motives, tu nous donnes du courage. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yeah!